7h. Le journal de 7h. Didier Blé.
Excellent début de semaine à tous. Beaucoup de plaisir que nous avons à vous retrouver. 10 novembre 1973, 10 novembre 2023, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à 50 ans. La cérémonie officielle marquant l'événement s'est tenue ce vendredi à Yamoussoukro. Le compte-rendu de Emilio, notre correspondant, dans cette édition. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, a annoncé vendredi 10 novembre la mise en service d'au moins 12 nouveaux péages sur les routes ivoiriennes. C'était lors de l'adoption des crédits budgétaires alloués à son département devant les députés ivoiriens. Des détails dans ce journal. En page africaine au Mali, la bataille de Kidal s'est poursuivie ce dimanche 12 novembre et dans les rangs de l'armée, on ne cache pas que prendre le contrôle de Kidal est une priorité. Francis Cassis sera avec nous pour la revue des titres vers la fin de ce journal. Et puis en toute fin de journal, notre invité de la rédaction ce lundi est Koulibaly Vamara, président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication avant la fermeture de la session ordinaire ce 17 novembre en compagnie de Julien Cardin. Il sera question de l'importance de cette carte et les conditions de son acquisition. Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix commémore en ce moment les 30 ans de décès du président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que le cinquantenaire de la Fondation qui porte son nom. Elle a organisé donc à cet effet ce vendredi 10 novembre 2023 dans ses locaux à Yamoussoukro une journée porte ouverte à l'attention des populations et procédé à l'ouverture officielle de son imprimerie numérique ainsi qu'à la dédicace de certains ouvrages qu'elle a édités. Emilio.
Créée le 10 novembre 1973, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a aujourd'hui 50 ans. Un cinquantenaire que compte marquer d'une pierre blanche son premier responsable, professeur Jean-Noël Loukou.
Depuis donc janvier, nous menons différentes activités. Il y a des journées portes ouvertes. Nous venons d'avoir une dédicace des ouvrages publiés par les éditions de la Fondation. Nous avons lancé le 19 janvier 2023 les commémorations pour le 30e anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et le cinquantenaire de la création de la Fondation.
Professeur Jean-Noël Loukou est par ailleurs revenu sur le bien fondé de toutes les actions menées par la Fondation, non sans évoquer les grands chantiers ainsi que sa nouvelle matrice d'action.
Je suis heureux que deux projets soient en phase de réalisation, la réhabilitation générale de la Fondation et l'école panafricaine de la paix. Nous souhaitons vivement l'aboutissement de deux autres projets qui nous tiennent à cœur, le projet de musée de la paix et le transfert de la radio de la paix à la Fondation à Yamoussoukro.
Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Docteur Augustin Thiam, qui présidait les activités de ce vendredi 10 novembre, se dit satisfait des actions menées par la Fondation.
Si on se réfère à toutes les activités scientifiques, culturelles et pédagogiques sous l'autorité du professeur Jean-Noël Loukou, on peut dire sans faux fuyant que la Fondation joue son rôle de faire connaître aux générations présentes et futures la pensée politique et philosophique du président Félix Houphouët-Boigny.
Opérationnelle depuis quelques mois, l'imprimerie numérique de la Fondation a été officiellement inaugurée ce vendredi 10 novembre 2023. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Merci à vous Émile et plus de rappelons que ces festivités vont se tenir jusqu'à la fin de l'année 2023. À l'initiative de l'ONG Indigo, une vingtaine de leaders communautaires de Divo ont participé ce samedi 11 novembre à un atelier de renforcement de capacités en santé mentale et en soutien psychologique. Les connaissances désormais acquises vont leur permettre de déceler des cas tangibles et les référer vers les compétences qui s'imposent. Abel César Cassin.
Pour prévenir des traumatiques crises à Divo au cours des élections de 2025, l'ONG Indigo a ouvert une clinique d'écoute et de prise en charge psychologique au centre culturel de Grémia. En plus du cadre de collaboration déjà installé, pourquoi un renforcement de capacité d'une vingtaine de membres de cette entité en santé mentale et en soutien psychologique? La réponse avec Joël Kwasi de l'ONG Indigo.
Aujourd'hui à Divo, la mémoire traumatique des crises est forte. Et c'est l'un des éléments effectivement qui alimente les crises pendant les élections. Dans ce cadre, Indigo a jugé bon de développer un partenariat avec le programme de santé mentale logé au ministère de la Santé grâce à l'appui de l'ambassade de Suisse pour renforcer les capacités des membres de la communauté, les travailleurs sociaux et les acteurs de la santé de la zone sur la prise en charge de cette question.
En plus de référer les cas tangibles vers des services spécialisés, voici ce que la consultante spécialiste en santé mentale, Cassie Barbara, attend des membres du cadre de collaboration.
Nous espérons que ces membres, avec les outils qu'ils vont acquérir, puissent pouvoir aider les personnes qui ont vécu des événements traumatiques de pouvoir être résilients, accepter la chose malgré la douleur, de pouvoir avancer.
Soulignons que l'ONG Indigo mène des activités dans le domaine de la prévention des crises et de la santé mentale à Divo depuis 2 ans. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Infrastructures et transports, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a annoncé vendredi 10 novembre la mise en service d'au moins 12 nouveaux péages sur les routes ivoiriennes lors de l'adoption des crédits budgétaires alloués à son département devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières à l'Assemblée nationale. La mise en œuvre du programme de généralisation du péage sur le réseau routier en 2024 concerne le 4e pont d'Abidjan. On a également Yamsoukro, Boisflé, Dallois, Divo Gagnois, Boaké Ferkese Dougou, Abengrou, Agnibilekro, Grand Bassa Massini et la route de la Côtière. Le péage routier se présente aujourd'hui comme un financement alternatif pour l'entretien de nos routes et face au gap budgétaire existant donc entre les besoins et les ressources allouées et afin de pouvoir entretenir convenablement nos routes. Il a été adopté la mise en service des péages sur les axes routiers nouvellement réhabilités et ou bitumés, a justifié le ministre Amédée Kouakou. La question de l'orpaillage clandestin, justement, il faut bien qu'on en parle, a focalisé les débats lors du passage du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie devant les députés pour la défense de son budget pour l'année 2024. Il y a quelques jours, les députés de la Commission des affaires économiques et financières disent ne pas comprendre que le pouvoir public, tous les efforts consentis, ne parviennent pas à juguler cette activité illégale. Et suivons la réaction du ministre Koulibaly Sangafoa.
D'abord, il faut être honnête pour dire que ce que nous recherchons, ce n'est pas qu'on va arriver à un moment où il n'y aura plus d'illégalité dans cette filière. De toute façon, quelle est la filière où il n'y a pas certains qui essaient de tricher avec les règles qui sont établies et édictées? Et tout le monde le sait, il y a aujourd'hui des risques sur le plan sécuritaire en ce qui concerne cette activité qui ont amené le Conseil national de sécurité à se saisir de cette question et à mettre en place une unité spéciale dont le rôle est de réprimer l'exploitation illégale. Je pense qu'en termes de volonté politique, on ne peut pas être plus clair. Maintenant, en plus de la répression, il faut aussi une réponse plus prononcée au plan social et économique parce que tout le monde le sait, tous ceux qui se livrent à cette pratique, sur chaque gramme d'or vendu, il y a une clé de répartition où chacun y trouve son compte. Une chose est de dire de fermer les mines illégales, mais une autre est de dire tous ceux qui gagnent quelque chose par rapport à cette clé de répartition, il faut que dans la solution, ils soient pris en compte. Moi, je suis particulièrement confiant parce que dès que nous aurons installé les unités d'affinage d'or, ça voudra dire que désormais, nous saurons avoir les moyens de contrôler l'amont de la chaîne. On n'y est pas encore, j'en conviens, mais à chaque jour suffit sa peine.
Vous écoutiez à l'instant le ministre Koulibaly Sangafoa, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La société minière de la Lobo, implantée depuis plus de 2 ans dans 5 localités du Haut-Sassandra, veut s'impliquer dans le développement local des villages impactés par son activité minière. Elle a donc signé récemment une convention d'un peu plus de 728 millions de francs CFA avec l'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle. Compte rendu, Jean-Noël Kouamé.
À travers cette signature, la société minière entend exercer sa responsabilité d'entreprise sociale et apporter sa contribution au développement des localités impactées par l'activité minière. Nana Ousou Ansa, directeur général de la société.
Il est difficile quand nous commençons une mine de pouvoir embaucher tout le monde. Cette formation, ça doit leur donner de la valeur pour qu'ils puissent acquérir certaines compétences pour pouvoir au moins se prendre en charge dans la société. On est censé développer l'endroit qui est là, mais il faut en partir. Tant qu'on puisse développer beaucoup de compétences pour que la communauté puisse évoluer.
150 jeunes seront formés sur 3 ans et 30 micro-projets seront développés dans les 5 localités d'implantation de la société minière. Karitia Koulibaly, directrice générale de l'AGFOP.
Ce sera essentiel essentiellement des métiers du BTP par rapport aux besoins de la région. Nous aurons à former des jeunes dans tout ce qui est activité connexe de la mine et financer des projets de 30 groupements d'intérêt économique. Nous allons leur donner une formation en entrepreneuriat pour qu'ils arrivent à augmenter leurs revenus et leur apporter du matériel.
Avant la signature de la convention, une réunion de présentation et de validation du projet de création du comité local de développement minier s'est déroulée avec le corps préfectoral, les bénéficiaires au projet et le directeur de la responsabilité sociale et du développement durable de la société minière, Denis Gondi. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Puis le ministère d'État, le budget du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, vient d'être approuvé à l'unanimité des membres de la Commission des Affaires Économiques et Financières de l'Assemblée Nationale. Mais avant, les députés se sont interrogés sur les raisons de l'augmentation substantielle de ce budget qui est passé de 188 milliards en 2023 à 311 milliards de francs CFA pour l'année 2024. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani donne quelques justifications.
Parce que partout dans le monde, il est question de sécurité alimentaire. Et nous avons aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans le cadre de certains projets. Et lorsque nous sommes bénéficiaires de projets, il y a une contrepartie que l'État de Côte d'Ivoire donne. Et lorsque vous multipliez par autant de projets, le budget donc que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition ne peut que connaître une embellie. Et c'est pour cela que vous avez dû constater cela. Mais n'oublions pas que nous sommes un ministère par où les budgets transitent. C'est-à-dire que nous n'exécutons pas tout le budget. Il y a par exemple des structures sous tutelle qui bénéficient de budgets de l'État, mais qui passent incontestablement par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, pour atterrir chez les autres. Nous avons parlé de près de 99 milliards de francs CFA.
Voilà, c'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières. Page africaine au Mali, la bataille de Kidal s'est poursuivie ce dimanche 12 novembre. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à une vingtaine de kilomètres de la ville. L'armée malienne a engagé une bataille contre les rebelles de la coalition dénommée CSP-PSD pour le contrôle de Kidal. Et ces derniers occupent la ville depuis 2012. Ville qu'a quitté la MINUSMA le 31 octobre dernier. Dans les rangs de l'armée, on ne cache pas que prendre le contrôle de Kidal est une priorité. Et côté rebelle, l'objectif est de mettre toutes les forces dans la balance. Les populations civiles, elles, continuent de quitter Kidal, où les lignes téléphoniques sont interrompues. Sans transition, nous retrouvons pour la revue des titres Francis Cassi. Francis, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Guillaume Soro, ex-premier ministre ivoirien et ancien président de l'Assemblée nationale, a décidé de mettre fin à son exil et de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est par ce sujet que nous ouvrons notre revue des titres des journaux de ce lundi Didier. Traqué depuis 2019 par le régime Ouattara, Guillaume Soro décide « Je mets fin à mon exil ». Titre à ce propos, Génération Nouvelle. Ce sur quoi renchérit le temps indiquant, après 4 ans passés hors du pays, Guillaume Soro met fin à son exil. Pareil pour l'Inter avec situation politico-judiciaire, Guillaume Soro, je mets fin à mon exil. Ainsi que l'héritage qui note, Guillaume Soro depuis sa cachette, j'ai décidé de mettre fin à mon exil. Et aussi le quotidien d'Abidjan écrivant, après son kidnapping manqué à Istanbul, Guillaume Soro, je mets fin à mon exil. Mais sur le même sujet Didier, le jour plus à cette manchette. Affaire Ouattara a voulu me kidnapper. Guillaume Soro persiste dans ses gros mensonges. L'exil se complique pour l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il est apparu très amaigri. D'où ses interrogations à la une de Le Nouveau Réveil. Fin d'exil après plusieurs tentatives d'arrestation. Guillaume Soro en famille ou en prison. Qui a besoin de Soro au pays et pourquoi faire? Voilà. Les trois grands partis ivoiriens intéressent aussi les unes de vos quotidiens de ce jour. Et au sujet du RHDP, nous apprenons avec le patriote se faisant l'écho de propos de Louis-André Dakoury Tablé, ministre gouverneur du Loguibois. En 2005, Ouattara est notre candidat idéal. C'est ce que fait également RHDP News, attribuant cette phrase à Célestin Kouala. Alassane Ouattara est notre candidat en 2025. Le PDCI, pour sa part, est depuis un moment Didier, en une une de vos journaux par rapport à l'élection à sa présidence du 16 décembre. Là-dessus, notre voix nous rapporte de Niamia Yao, président du mouvement Bédié pour tous, tous plus Bédié, ses paroles. Au PDCI RDA, Thiam est un bailleur de fonds et d'idées. Avant que le nouveau réveil, de son côté, ne fasse cette précision. Candidature pour le congrès électif du PDCI RDA dans le secret du travail souterrain pour l'unité. Enfin, Didier, nous terminons notre revue des titres avec un autre parti politique ivoirien, le PPACI de Laurent Gbagbo. Le concernant, Fraternité Matin barre 6 à 1 avec cette question. Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Gbagbo en panne. Voilà. Merci. Bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous, Francis. Hein, vous débordez d'énergie. Bonne journée et puis à tout à l'heure, 8h. Notre invité de la rédaction est Koulibaly Vamara, le président de la commission paritaire à l'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication. En effet, du 16 octobre au 17 novembre 2024, la commission paritaire à l'attribution de cette carte d'identité ouvre sa session ordinaire 2024 sur l'importance de cette carte et les conditions de son acquisition. Koulibaly Vamara apporte des éclairages. Il répond aux questions de Junior Cardin.
Président Koulibaly Vamara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication. La session 2024 s'ouvre. Quelles sont les conditions d'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication?
Merci beaucoup de nous donner l'occasion donc de parler donc de la CIJP. Les conditions pour postuler à la carte n'ont pas changé et puis c'est toujours les mêmes conditions. Nous avons même facilité pour permettre aux journalistes d'être beaucoup plus imprégnés. Il y a désormais le site cjp.gouv.ci qui donne tous les détails sur les conditions d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels. J'invite donc la communauté des journalistes à se rendre sur cette plateforme-là pour non seulement s'imprégner donc des conditions d'attribution, mais aussi pour faire leur demande sur le site. Sinon, pour les conditions des grandes lignes qu'on a toujours su, c'est avoir un diplôme de journaliste ou son équivalent, avoir une attestation, donc c'était une attestation de travail pour dire qu'on est effectivement en fonction, dans une rédaction, l'extrait de naissance ou la photocopie de la carte d'identité et plus des photos et la somme de 10 000 francs. Je crois que c'est les grandes lignes des conditions, mais je crois que tout est beaucoup plus détaillé sur le site.
D'accord. Mais président Vamara, pour cette année, on parle d'inscription en ligne, vous venez de le dire. Pourquoi cette exigence de cette année?
Non, c'était une demande des journalistes. Ils ont estimé qu'au moment du renouvellement ou du dépôt des dossiers, il y avait un accroupement au secrétariat et ça rendait les choses un peu plus difficiles. Donc, ils ont demandé, les journalistes ont demandé à qu'on puisse dématérialiser donc cette inscription-là et éviter donc le dépôt des dossiers valides. Donc, c'est une demande des journalistes à laquelle nous avons accédé et c'est chose faite désormais, comme je le disais, c'est cjp.gouv.ci.
Mais certains journalistes indiquent qu'il y a quelques petites difficultés pour le moment.
Oui, c'est normal. C'est le début, c'est normal. Bon, c'est une œuvre humaine, hein. La technique peut bugger, mais il y a aussi certains journalistes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils l'ont fait facilement. C'est d'ailleurs pour ça que il y a un séminaire il y a un atelier de formation donc pour les journalistes pour les familiariser avec le site.
D'accord. Et la commission s'ouvre quand pour prendre fin quand?
C'est déjà ouvert, c'est ouvert depuis le 16 octobre et ça prend fin le 17 novembre. Il faut que je précise, les années précédentes, bon, comme ce n'était pas sur un site, on avait la possibilité donc de prendre les dossiers hors délai, hein, c'est-à-dire on dépassait la date. Mais maintenant, avec le site, à partir du 17 novembre, à minuit, le site va se refermer automatiquement. Ça veut dire que personne ne pourra encore faire une demande à partir du 17 novembre, à minuit. Donc, ce qui est mieux, c'est que les gens fassent très vite, hein, qu'ils s'inscrivent rapidement, et ça va leur permettre des désagréments des dernières minutes.
D'accord. Au-delà donc de cela, quel message vous avez à l'endroit de tous les journalistes, tous les professionnels de la communication qui pourraient être intéressés par l'acquisition de cette carte?
Comme on l'a dit les années précédentes, la carte d'identité Le journaliste professionnel et professionnel de la communication est un document qui vous identifie clairement dans le secteur dans lequel vous opérez. C'est comme chez les avocats, c'est comme chez les experts comptables, c'est comme chez les magistrats, ils ont leur carte professionnelle. Alors, nous, notre carte a été instaurée pour faire la différence avec les autres. Donc, quand on est journaliste, quand on est journaliste professionnel, quand on est professionnel de la communication, je pense que le document qu'il faut avoir pour pouvoir se prévaloir de cette communauté-là, c'est la carte d'identité des journalistes professionnels et professionnels de la communication.
Vamara Koulibaly, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de revenir sur la TGP. Merci beaucoup.
Voilà, c'était l'invité de la rédaction de ce matin, le président de la commission paritaire à l'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication, répondant aux questions de Junior Cardin, Vamara Koulibaly, justement, rappelons-le, revenait sur l'importance de cette carte et les conditions de son acquisition. C'est fini pour ce journal de 7h, le rappel des titres. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a 50 ans. La cérémonie officielle marquant l'événement s'est tenue ce vendredi à Yamoussoukro. Vous avez suivi le compte-rendu de Émile Yao. Et puis Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, a annoncé vendredi la mise en service d'au moins 12 nouveaux péages sur les routes ivoiriennes. C'était lors de l'adoption des crédits budgétaires alloués à son département devant les députés ivoiriens. Au Mali, la bataille de Kidal s'est poursuivie ce dimanche. Dans les rangs de l'armée, on ne cache pas que prendre le contrôle de Kidal est une priorité. Nous serons là à 8h pour la deuxième édition de la matinée. D'ici là, Ghislain Koulibaly vous entretient pour les Matins de la Paix.
Radio de la Paix.
À Abidjan, 96 MHz.